Merci Andrea, merci Léa. Je crois que c'était important d'avoir un temps de louange qui nous centre sur Dieu, sur Jésus, qui nous ramène à l'essentiel. C'est vraiment important, aussi en vue du sujet que j'ai, parce que ce sujet, il peut être traité qu'à condition qu'on réalise la présence, la bonté, qui est notre Dieu. Il y a des fois, et souvent, les sujets qu'on a, on les a à cœur, dans un certain sens, ils vous font brûler, on a envie de les transmettre. Et puis des fois, ben, ce n'est pas exactement le cas. Et mon sujet aujourd'hui, c'est résister au diable. Franchement, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de considérer. C'est un peu gênant. Et puis en sortir quelque chose qui nous encourage, ce n'est peut-être pas si facile. Alors merci pour ce temps de louange. Merci Seigneur d'habiter tout cela de ta joie et de ta paix. Pourquoi je suis arrivé à ce sujet? Ben, je me suis rendu compte à quel point, finalement, Satan, le diable, a peu d'importance dans mes conceptions des choses, dans mes raisonnements, dans ma manière d'aborder les choses. J'y pense fort peu. J'en parle peut-être jamais. Je ne sais pas si j'ai déjà prêché sur ce sujet. Il est un peu un arrière-fond. Et pourtant, par exemple, Pierre nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qu'il pourra dévorer, résister lui, étant ferme dans la foi. Il est là, il y a quelque chose de... Oui, un lion, ça fait peur. Jacques 4, versets 6 et 7, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. On croit au diable, on sait qu'il y a le diable. Mais lui résister, ça veut dire quoi? Comment je résiste au diable si je ne suis même pas conscient ou peu conscient de sa présence? Là, il y a une tentation, c'est de réduire l'action du diable à l'occultisme, aux choses démoniaques, à ce qui tourne là autour. Aussi réel que ce soit, je dirais, ce n'est pas tellement prioritaire dans mon environnement. Je ne suis pas confronté régulièrement à des manifestations démoniaques évidentes. L'occultisme rampant des fois autour de nous, peut-être davantage. Mais une chose m'a frappé, c'est que dans le temps de Jésus, dans le temps des apôtres, l'occultisme, il était 100% présent. L'idolâtrie, des temples, des magiciens, c'était courant. Il n'y avait que ça à la limite. Et ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas du tout un sujet dont le Nouveau Testament parle beaucoup. À la limite, le seul enseignement un peu complet sur ce sujet... C'est dans l'Épître aux Corinthiens, quand se pose la question des viandes données aux idoles. Et la réponse, elle est quand même, en gros, ça veut dire, si pour vous les idoles sont rien, ben vous n'avez pas de risque. Si par contre elles sont quelque chose et vous faites quelque chose dans ce sens-là, c'est dangereux. Mais ce n'est pas le problème central. On peut vivre dans un environnement plein d'occultisme, des choses comme ceci, et puis, ça n'a pas obligatoirement une prise sur nous. Vous voyez, il y a une distance. Alors, ça existe, et c'est... Oui. D'ailleurs, Jésus nous dit, mais sur ces démons que l'occultisme engendre, eh bien, vous pouvez les chasser. Lui, il les a chassés, et notre responsabilité, on a autorité sur ces démons pour les chasser. Autorité, oui, enfin, on a aussi autorité pour guérir les malades. Ça met peut-être un peu les choses en perspective. Mais il y a cette autorité, elle existe. On peut chasser des démons. Mais l'ennemi, c'est Satan. Est-ce que je peux simplement chasser Satan comme je chasse un démon? Ai-je autorité sur Satan comme j'ai autorité sur les démons? Il faut réaliser une chose. On minimise la puissance et la grandeur de Satan. Il n'est pas Dieu, mais Il est vraiment puissant. Dans Éphésiens, chapitre 6, versets 11 et 12, il nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Ah, résister au diable. Ah, voilà, c'est le sujet. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les manœuvres du diable. » En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités, les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Les autorités, les souverains du monde du ténèbre, les esprits du mal. C'est très différent des démons que l'on voit dans les évangiles. Ces démons qui conduisent des gens à se conduire n'importe comment, ces démons qui tiennent liés des gens, mais des démons que Jésus peut envoyer dans les ports pour qu'ils aillent tomber dans la mer, c'est autre chose. Les autorités, les souverains du monde des ténèbres. Il y a au-dessus de ce qui nous semble évident, ces histoires de démons, on se rend compte, il y a quelque chose de plus vaste, de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus dangereux, qui gouverne ce monde. Ce n'est pas des démons qui gouvernent le monde, c'est des autorités, c'est des princes des ténèbres, c'est Satan lui-même qui est le chef de quelque chose qui est très grand et très puissant. Ce n'est pas Dieu, Dieu est en contrôle parfait de tout ça, mais ça joue dans une autre catégorie que les démons, ça joue dans une autre catégorie, je dirais, que nous-mêmes. Je ne crois pas qu'il y ait dans la Bible une diminution. Il y a un profond respect dans la parole pour la puissance de Satan et la puissance de ces êtres qui gouvernent finalement ce monde pécheur. Avec Dieu au-dessus, je vous dis, ce n'est pas dans la même catégorie que nous, mais ce n'est pas dans la même catégorie que Dieu non plus. Alors, comment résister? Je peux peut-être chasser un démon, mais comment résister à cette puissance énorme qui est au-dessus de nous? Comment résister aux manœuvres du diable? Bien, justement, c'est ce que veut nous enseigner cet épître aux Éphésiens. Elle ne va pas nous placer sur, comme des fois on l'utilise, on parle de combat spirituel comme étant une espèce de combat d'autorité qu'on a sur Satan. Et on se rapporte à ce Éphésiens 6 pour dire ça. Mais Éphésiens 6 ne dit pas du tout ça, il n'a pas un mot dans ce sens-là. C'est assez étrange pour moi. Mais que dit Éphésiens 6? Comment vais-je résister à cet ennemi qui attaque, mais un ennemi énorme? Comment faire? Ce que nous donne ce passage, c'est qu'il nous dit les cibles. Pour résister à un ennemi, il faut savoir où il m'attaque, comment il m'attaque. Et ce passage nous montre quelles sont les cibles de l'ennemi, où je suis attaqué, à quoi je dois faire attention, contre quoi ou comment et contre quoi je dois lutter. Alors ce passage, si Christian peut le projeter, je l'ai imprimé de cette manière-là pour montrer qu'il a une structure, ce passage. Hein. Pour résister aux manœuvres du diable, tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant chaussé vos pieds de la préparation donnée par l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et prenez l'esprit, c'est mal mis en page ici. Prenez aussi le casque de Jésus et prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est bon? Voilà. Vous voyez, il y a trois, deux fois trois choses. Ayez saint, ayez revêtu, ayant chaussé. Des choses qui sont là, qui existent, qui sont là, et qu'on a à finalement à reconnaître, elles sont là, il faut les recevoir dans un certain sens. Puis il y a des choses qu'il faut prendre ensuite. Prenez le casque de salut, prenez le bouclier de la foi. Deux choses. Et c'est structuré comme je l'ai montré sur cette chose-là. Il me semble, il y a au cœur, prenez le... Attends, il faut que je regarde ça. Voilà, je l'ai aussi imprimé là, c'est plus clair. Ayant chaussé vos pieds de la préparation donnée par l'évangile de paix. À mon avis, c'est le cœur de ce combat. Et en parallèle avec cette paix, et il y a le bouclier de la foi. Au-dessus, niveau supérieur, si vous voulez, ayant revêtu la cuirasse de la justice, ce qui correspond dans le prenez, le casque du salut. Justice, salut. Et puis tout au-dessus, ayant ceint vos reins de la vérité, ça correspond, prenez l'esprit de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous voyez, il y a des correspondances entre ces choses-là. Alors, on ne va pas entrer dans le détail, c'est important pour comprendre ce passage, mais je ne vais pas continuer beaucoup là-dessus, mais il y a trois choses à recevoir. Il y a vraiment trois choses à recevoir et puis trois choses à saisir qui correspondent aux choses à recevoir. Trois choses à recevoir, c'est la vérité, la justice et la paix. Et c'est les trois cibles de l'ennemi. C'est, à mon avis, c'est... Alors, l'ennemi fait beaucoup d'autres choses, mais là où on est dans le cœur de la chose, et Satan, il va travailler, il va... Finalement, son but essentiel, ça va être de toucher la paix, la justice et la vérité. Et on va voir un peu qu'est-ce que ça signifie, comment on réagit. Alors, une fois de plus, avant de continuer, juste une petite parenthèse, ce passage, ce n'est pas tout le combat spirituel. Ce passage, ce n'est pas tout ce que l'ennemi fait. Mais c'est vraiment le cœur de des choses. Il y a bien d'autres choses, on ne va pas en parler, mais j'aimerais vraiment me tenir à ce cœur. Et puis dans ce cœur, ces trois grands éléments, le cœur du cœur, si vous voulez, ce qu'il y a tout au fond, pour moi, si je comprends bien les choses, c'est la paix. La paix, la bonne nouvelle de la paix. La meilleure nouvelle qu'on a, c'est qu'on a la paix. On a la paix avec Dieu, on a la paix de Dieu, on est en paix avec nous-mêmes. Dieu donne la paix, pas comme le monde donne, pas la tranquillité, non, mais une paix profonde, quelque chose qui est à la racine. Et c'est vraiment la bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est aussi tout le chemin qui mène à la paix, mais finalement, la paix, c'est la liberté totale devant Dieu. Et c'est à ça qu'on est appelé. Et c'est ça que Satan attaque. Pourquoi? Pourquoi vous pensez que c'est Satan au cœur, il veut troubler cette paix que Dieu nous donne? C'est parce que son but à Satan, c'est pas nous faire du mal. Nous, j'ai l'impression, il s'en fiche un peu. Il veut toucher Dieu. Il veut empêcher Dieu d'accomplir ses plans. Il est l'ennemi. Il n'est pas tellement notre ennemi, oui, indirectement. Il est surtout l'ennemi de Dieu. Ce qui nous fait penser d'ailleurs à sa puissance. Être ennemi de, c'est pas nous qui pouvons être ennemis de Dieu. Je vous parlais de catégorie, on n'est pas dans la même catégorie. Eh bien, Satan, il est suffisamment puissant pour pouvoir s'affronter à Dieu. Alors, pourquoi il s'attaque à la paix? Parce que la paix, elle est nécessaire pour accomplir l'œuvre de Dieu. Sans la paix, on n'accomplira pas l'œuvre de Dieu. Si je ne suis pas en paix, ben je vais chercher la paix. Si je ne suis pas en paix, ça va me faire agir pour gagner la paix. Si je ne suis pas en paix, je vais travailler pour moi-même, finalement, pour gagner la paix. Et je ne vais pas faire l'œuvre de Dieu, je vais faire mon œuvre à moi. Sans la paix, ce que je fais, c'est mon œuvre à moi. Et la paix, cette espèce de paix profonde et libre, me permet de travailler pour Dieu. Sans elle, je n'y arriverai pas. Et c'est pour ça que Satan s'attaque profondément à cette paix. Paix donnée de Dieu, mais qui est soumise à des attaques, qui est soumise à quelque chose sur lequel Satan se focalise. Il y a beaucoup de causes qui peuvent rompre la paix. Que je ne suis pas en paix, par exemple, si je n'ai pas ce que j'espère, si je suis frustré, je ne suis pas en paix, si je suis jaloux de quelqu'un, je ne suis pas en paix, si je suis mécontent de la situation. Il y a toutes sortes de choses que Satan peut utiliser pour user cette paix. Pierre-Claude en a mentionné, j'ai remarqué quand il l'a dit, maintenant j'ai oublié, merci Pierre-Claude. Il y a des tas de choses qui sont là pour tuer cette paix. Mais il y en a une sur laquelle j'aimerais me concentrer. Je focalise sur vraiment une seule petite chose, mais elle est importante. Qu'est-ce qui est le contraire de la paix? Qu'est-ce qui Oui, elle opposait-tu la paix? Ben, c'est la peur. Si je suis, si j'ai peur, ben, je ne suis pas en paix. Ça va vraiment ensemble. Et une des armes de l'ennemi, le travail de Satan, du grand Satan, c'est essayer de nous faire peur, d'engendrer chez nous de la crainte. Pourquoi? Parce que je vous dis, il y a une seule raison, Satan, c'est d'essayer d'empêcher le travail de Dieu. Et la peur empêche le travail de Dieu. Elle l'empêche de deux manières. Ça dépend des personnes. Alors, ça se chevauche, hein, mais en gros, ça dépend quand même des personnes. Et Satan sait parfaitement où toucher pour que cette paix disparaisse et qu'elle soit remplacée par de la crainte. Et l'effet de cette crainte est varié. Première chose, premier effet de la crainte, et c'est ma réaction, moi je me retrouve là-dedans, si vous voulez, c'est de nous rendre finalement passifs ou cachés. Il y a un exemple biblique. Une chose qui m'a, juste petite parenthèse de nouveau, une chose m'a frappé, j'ai lu tous les passages où on voit Satan, l'ennemi, agissant avec les hommes. Et il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a un là où on voit que cette peur, elle est liée à Satan. C'est l'histoire de Pierre. Jésus lui dit explicitement, Satan a demandé à vous cribler comme les blés. Et puis il continue à Pierre, toi quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Et juste après, c'est l'histoire du reniement de Pierre. Pour montrer que la crainte qu'a Pierre et qui lui fait renier le Seigneur dans cette scène tragique, dans le, c'est dans la demeure du souverain sacrificateur, me semble-t-il. Cette scène-là, eh ben, elle est liée à Satan, au travail de Satan qui effraie Pierre et qui lui fait renier Jésus. Moi, ce qui m'a toujours frappé chez moi et chez beaucoup d'autres, c'est la difficulté, la crainte qu'on a simplement à rendre témoignage, à parler de Jésus. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est le cas de beaucoup, c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est difficile de parler de Jésus. Et pourtant, qu'est-ce qu'on risque? Mais il y a quelque chose de puissant en nous qui nous contraint. Eh bien, c'est Satan, et c'est pas juste nos tentations, nous-mêmes, avec tout, c'est pas seulement un démon qui est là, c'est vraiment Satan. Il y a une stratégie, il y a quelque chose de puissant qui nous empêche, qui nous fait peur pour témoigner à Jésus, qui entrave le travail et le plan de Dieu. Et c'est puissant et c'est pas évident. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a pourchassé toute ma vie. Et ça reste difficile. Les victoires sur l'ennemi, elles ne sont pas si faciles. Résister à l'ennemi, ce n'est pas aisé. Il faut en être conscient. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de donner ce message. C'est pour, on réalise qu'on s'habitue à certaines situations. Eh bien, non. Elles sont sérieuses. Et puis face à la crainte, on a des tas de stratégies. Des stratégies inspirées par Satan. Quand il y a des situations qui ne me plaisent pas, qui sont là, qui me troublent ma paix, qu'est-ce que je fais? Ben, ça c'est aussi, je le fais assez facilement, on ferme les yeux, on n'essaye pas voir, on regarde ailleurs, ou bien on se dit, finalement, ça ne me concerne pas personnellement, c'est pour les autres. Ou bien, on peut dire, c'est vrai, mais qu'est-ce que j'y peux? Ou bien on peut même dire, ben, Dieu s'en occupe, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Mais c'est des stratégies de Satan. Ce n'est pas des choses légères. Non, c'est au cœur de notre combat. C'est au cœur de ce qui... Oui, on peut avoir peur de l'occultisme ou des choses extraordinaires. Ça, c'est tout à fait ordinaire, mais c'est vraiment au cœur. Comment résister? Je ne sais pas... Toute la Bible explique un peu ça. Je ne vais pas entrer. Simplement, si vous reprenez ces passages-là, ce qui correspond à l'évangile de la paix donnée de Dieu que Satan attaque, c'est le bouclier de la foi, lequel permet d'éteindre les dards enflammés du méchant. La foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Parce que finalement, arrêter de regarder à soi-même et regarder à Dieu. Ce qu'on a chanté, ce que Pierre-Claude a dit dans le psaume 77 aussi. La seule chose qui nous permet de lutter, de résister, de garder cette paix, finalement, c'est la foi. Compter sur Dieu, faire confiance à Dieu. Et la foi, dans ce contexte particulier, en étant opposé à la crainte, la foi, c'est oser. La foi, c'est agir. Agir quand même, résister à l'ennemi dans cette situation-là, c'est ne pas lui laisser le dernier mot, mais agir avec courage. Confiance en Dieu. Et vous savez, vous avez toutes fait cette expérience, souvent, il y a des choses, de la crainte qui nous retient, et puis on ose quand même, on va de l'avant. Et très souvent, on se rend compte que notre crainte, c'était finalement un rideau de fumée. Satan, il nous a fait peur avec rien. On passe au travers et il ne se passe rien. Et on réapprend et on réapprend et réapprend ça. Mais ce n'est pas toujours des rideaux de fumée. Satan, il est vraiment dangereux. Et il a une capacité de faire du mal. Et je peux passer pour mes craintes, faire quelque chose, et ça se termine finalement ça se finit bien, vraiment mal dans ce monde déchu et cassé. Et Dieu le permet. Et Satan, il n'est pas inactif, il n'a pas aucune possibilité. Ce n'est pas parce que je fais un pas de foi que les choses vont bien se passer. Mais on a la paix de Dieu. Ayant chaussé vos pieds de la préparation donnée par l'évangile de la paix, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose que Dieu a mis dans nos cœurs. Et même si ça se passe mal, on fait cette expérience, c'est que la paix de Dieu existe quand même. Il y a une présence de Dieu, quand on est enfant de Dieu, qui permet, même quand les choses, on n'est pas récompensé, je dirais, de notre courage, eh bien, il y a quelque chose qui nous est donné. Ce n'est pas à nous, mais Dieu est là. Et c'est pour ça qu'il est parlé de foi, de confiance en quelqu'un d'autre, confiance en Dieu. On peut aller de l'avant, même quand on a peur, pas obligatoirement parce que c'est un rideau de fumée, c'est facile, mais parce que on n'est pas seul et on connaît Dieu. La peur, moi, elle me pousse à la prudence, à arrêter. Ce n'est pas le cas de tout le monde. La peur, des fois, elle engendre le contrôle. Le stress, la crainte, les choses ne vont pas. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je prenne les choses en main, il faut que je me prenne, il faut décider, il faut quand même aller. On ne va pas laisser ça comme ça, mais qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, il y a des gens, moi je serais, il y a des gens, au contraire, ils foncent, ils ont envie d'agir et ils se précipitent en urgence. Et le motif de leur action, ce n'est pas la pensée de Dieu, c'est la crainte, c'est la peur. Et on agit un peu n'importe comment, en croyant essayer de résoudre le problème qui est devant nous. On n'a pas la paix. C'est absence de paix que le stress est là. Et il y a un autre exemple. Je vous disais, j'essaie toujours de trouver des exemples scripturaires dans toutes sortes de choses dont je ne vais pas parler non plus, mais l'exemple scripturaire ici, c'est Jésus. Jésus a été tenté. Et je vous lis sa tentation, hein, Matthieu 4. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, première tentation, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, tout homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, deuxième tentation, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta ensuite sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus alors lui dit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa. Comment on peut résumer ce que Satan essaye de faire? Il essaye de tenter Jésus à prendre les choses en main. Et c'est exactement ce qu'on fait quand, face aux craintes, aux difficultés, on veut prendre les choses en main, on veut contrôler les choses. Alors, pour Jésus, il a faim, il a 40 jours de jeûne, il est dans le désert, il a vraiment faim, c'est un vrai problème. Il a vraiment besoin de cela. C'est une situation douloureuse. Et dans nos vies, souvent, les choses sont vraiment douloureuses. Et il faut que ça change certaines choses. Eh bien, ce que Jésus dit, c'est cette chose-là, si elle arrive, cette faim, si elle arrive, c'est que Dieu l'a permis. C'est Dieu qui l'a permis. Dieu n'est pas hors de contrôle. Quelque chose que fasse l'ennemi, finalement, Dieu est toujours en contrôle. Et si ça arrive, il n'y a pas à se stresser, ça n'a pas échappé à Dieu. Et prendre ça en main, c'est, dans un certain sens, tomber dans la tentation. C'est la crainte ou le besoin ou le désir qui me pousse à cela. Ce n'est pas la liberté, ce n'est pas la paix, c'est autre chose. La deuxième tentation, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. C'est la tentation de piloter Dieu pour obtenir mes propres plans, ou même piloter Dieu pour réaliser les plans de Dieu. Mais je le pilote, je décide, c'est moi qui provoque. Et ça, c'est aussi une grande tentation. Quand on n'a pas la paix, on va chercher une manière, finalement, on s'attend à ce que Dieu agisse d'une certaine manière. On va faire les choses parce qu'on pense que c'est la manière dont Dieu veut les entreprendre. Et la plupart du temps, on se plante totalement. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Souvent, son plan, c'est pas qu'on sorte de cette situation qui nous fait peur et nous trouble. À travers cette situation, Dieu a un plan, a des idées. Mais nous, dans ce stress et sans cette paix, on est incapable de le voir. Et on veut redresser la chose. On sait mieux que Dieu et on va gouverner Dieu au lieu d'être profondément soumis à Dieu. Réalisant que cette chose-là, il en a le contrôle. C'est pas nécessaire que je le contrôle, c'est en tout cas pas nécessaire que je lui dise à Dieu comment faire. Et c'est cependant ce que très facilement on fait. Pas très consciemment, mais très facilement. La troisième tentation, je donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer, c'est de vouloir utiliser les moyens du monde, quel que soit ce que ça signifie, les moyens du monde pour accomplir les plans de Dieu. Non seulement Dieu a des plans, mais le chemin pour les accomplir, il n'a rien à faire avec les techniques, les idées de que nous, on emploierait comme être humain pour gouverner les choses. Je vous disais tout à l'heure, il est dans une autre catégorie, non seulement de puissance, mais de pensée, d'idées. Ces plans nous dépassent totalement. C'est plus qu'à nous dépasse. La Bible dit même qu'entre la chair, la pensée de la chair et la pensée de l'esprit, il y a c'est opposé. C'est pas simplement peu compatible. Non, c'est opposé. Et c'est une immense tentation quand on veut prendre une situation en main, de le faire avec notre logique. Franchement, on sait pas tellement comment faire autrement. Eh bien, ça, ces choses-là, c'est des choses qui entravent, qui arrêtent ce que Dieu veut faire. Et c'est ça la victoire de Satan. Par exemple, si j'utilise les moyens du monde pour accomplir les plans de Dieu, on le voit dans le passage que Jésus, avec Jésus. Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » En fait, quand on prend les choses en main de cette manière, on couronne Satan. On veut des fois servir Dieu, mais en fait, on couronne Satan. Vous voyez, ne prenons pas ces choses à la légère, je dirais. Elles nous échappent un peu, hein. Je suis très conscient, je dis des choses, on ne sait pas trop comment les articuler. Mais elles sont sérieuses. Toutes les situations sont dans sa main, les plus incompréhensibles. Je lis, c'est un livre que j'aime beaucoup, ça s'appelle, en français, ce serait la paradoxologie. C'est un livre qui prend la Bible et qui exprime, il dit, en gros, écoute, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la Bible. Eh bien, affrontons, voyons vraiment ces choses qui nous confrontent dans la Bible, acceptons-les comme étant présentes, n'essayons pas de les mettre de côté, mais acceptons-les. Ben, c'est un peu la même chose dans notre vie. Il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas. Dieu n'est pas comme on pense. Ben, faisons-lui confiance. Comment lui résister? Ben, c'est toujours, on est toujours dans ce premier truc. Lui résister? Par la foi de nous. Lui faire confiance. Comment dire ça? Satan, il essaye de nous masquer Dieu. Eh bien, la foi, c'est nous retourner vers lui, le regarder, lui, quel il est, cette puissance infinie qu'il a, cette domination, cette capacité de sortir de tout. La foi, nous retourner vers lui. Et quand on est dans la crainte, je vous disais que la foi, c'est d'oser. Ben, quand on est dans cette chose-là, la foi, c'est d'oser ne rien faire. C'est oser laisser la place à Dieu. Alors, ça peut être une fuite, suivant, si ma crainte me pousse à dire, oh ben Dieu, tu t'en occupes, eh ben je suis hors du plan de Dieu, mais si ma réaction face à la crainte, c'est je me mets en route, je fais tout ça, ben, j'exclus Dieu. C'est plus la foi, vous voyez? La foi peut nous pousser à faire, elle peut nous pousser à attendre. Et c'est la même foi, et c'est simplement deux combats différents. Et on a tous un peu les deux combats, mais suivant notre personnalité, on est plus d'un côté ou de l'autre. Alors, je ne sais pas où vous en êtes chacun, mais soyez attentifs quand ce genre de paix qui commence à fluctuer, ces craintes qui commencent à venir, attention, ça veut dire une chose, ça veut dire que vous êtes dans un combat. Mais c'est un combat dans lequel on peut avoir... être victorieux, parce que Dieu est vivant, il est là. Mais vous direz, ben oui, la paix, comment je la trouve cette paix? Je peux bien lutter contre la crainte, mais la paix, ben la paix, elle est reçue. Mais pour qu'elle soit reçue, pour qu'elle soit connue, eh bien, elle doit être, comment dire, entourée. C'est pour ça qu'il y a un autre niveau. Ayant revêtu la cuirasse de la justice, prenez le casque du salut. On aura la paix, elle est vivable seulement si on est dans cet emballage de la justice et du salut. Et Satan le sait, donc il va aussi attaquer là. La paix, elle est basée sur la justice qui m'est donnée. Et par justice, il faut être... Des fois, on a, dans notre lecture de la Bible, quand on voit justice, on a tout de suite un aspect légal, si on veut. C'est beaucoup plus vaste dans la Bible. Quand il est parlé de justification, ce n'est pas seulement juridique. Ça comprend la nouvelle naissance, cette nouvelle identité qu'on a en Jésus, cette nouvelle création qu'on est. On est justifié pas parce que quelque chose... Non, on est justifié parce qu'on est des êtres nouveaux, connectés à Jésus, en Christ, vous voyez. La justification trouve tout ça. Et ça, c'est ce que Satan déteste, parce que c'est une réalité pour nous, qui nous donne la paix, et il va attaquer. Alors, il attaque essentiellement en nous sentant coupables. Et très vite, alors qu'on est vraiment sauvé à 100%, cette culpabilité, elle a tendance à revenir. C'est un travail de Satan. Et pas seulement la culpabilité, mais le sentiment d'insuffisance, le sentiment d'être à côté, le sentiment d'être rejeté, d'être rien. Vous voyez, tout ce qui touche à notre identité, eh bien, Satan essaye de le toucher. Et on a mille manières de réagir. Alors, le temps passe, je ne vais pas entrer là-dedans, mais on peut se sentir abattu, on peut tomber dans le légalisme, on peut essayer de prouver sa compétence face à tout le monde, et face à soi-même. Ah, je suis compétent, je maîtrise. On peut chercher à... Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai marqué, bon, etc. Quoi. Il y a mille fausses solutions. Mais la seule solution, la seule réalité, c'est que je suis, j'ai une identité, je suis justifié. Et comment y résister? Ben nouveau, comment y résister? Le salut. Prenez le cas du salut. Pourquoi? Mais parce que le salut, c'est quelque chose, on sait profondément que c'est en dehors de nous. Le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on a acquis. Le salut, quand on l'a reçu, on réalise à quel point c'est un cadeau. Ça vient d'en haut. On ne peut rien y faire, c'est gratuit. Et ça nous apprend quelque chose. Ça veut dire que tout le reste aussi est gratuit. On ne peut pas commencer par la foi et la grâce et continuer par les œuvres et par l'effort. Et par... Non. Je trouve le meilleur résumé de comment Dieu utilise notre... nous communique cette chose-là, c'est Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui même qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas donc aussi librement de toutes choses avec lui? Qui entendra accusation contre les élus de Dieu? Satan. Qui attendra? Mais c'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation, détresse, persécution, famine, nudité, péril, épée. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans Jésus notre Seigneur. Pourquoi on a la paix? Pourquoi on... Parce qu'on est justifié. Pourquoi on est justifié? Parce qu'on est sauvé. Parce que Dieu est pour nous. Il l'a démontré, il le dit. Et il faut toujours revenir à ça. Revenir à cette merveille de ce Dieu qui nous a sauvés en venant, en donnant son Fils. On ne mesure jamais, je crois, assez. Qu'est-ce que ça a été pour Dieu d'envoyer Jésus dans ce monde? Qui veut sacrifier son enfant? Troisième et dernier emballage. Vérité, esprit de l'esprit, parole de Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que c'est l'outil central de Satan. Tout le reste, si on n'a pas cette protection première, tout le reste devient... presque impossible. Et c'est le travail de Satan. Pourquoi? Mais Satan, c'est son fonds de commerce. Satan, il est menteur. Dans Jean 8, il est dit, Jésus dit, Satan n'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Vous voyez, c'est la nature profonde. Quand Satan attaque, ben, il attaquera au travers de choses qui sont fausses, au travers de mensonges. Parce que Dieu est vérité, Dieu est bon, et tout ce que peut dire Satan pour diminuer Dieu, ça peut être que mensonge. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, Paul dit, « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde, Satan, a aveuglé l'intelligence pour qu'il ne voit pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Une priorité de l'ennemi pour nous, là, c'est la première rencontre qu'on a avec lui, on le voit, c'est de nous entraîner à la confusion. Par ses mensonges, il est le créateur de la confusion. Alors il y a des choses où c'est assez évident. On est dans une culture pleine de mensonges. Et franchement, c'est gros. Quand on voit les discours sur le genre, quand on voit les discours sur toutes sortes de valeurs complètement artificielles, quand on voit ce qu'on fait de la science, on la déifie, où elle devient le critère absolu de vérité, alors que c'est évident que c'est partiel, etc., etc. Il suffit de lire les journaux et d'écouter un peu pour se rendre compte à quel point c'est plein de mensonges dans notre culture, mais des mensonges qu'on peut encore identifier. Alors, je pense que les gens du monde s'en rendent peu compte, mais l'Esprit de Dieu nous les rend sensibles quand même. Et puis notre culture chrétienne, ce qu'on a appris, ce qu'on connaît, nous protège aussi. On reviendra à la parole tout à l'heure. Mais, mes amis, il y a des évidences cachées des mensonges. Il y a des mensonges qu'ils sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus délicats, parce qu'ils sont pour nous comme des vérités. Il y a un discours dans notre société, en particulier depuis 30 ou 40 ans, sur la nécessité, la priorité, le salut finalement, c'est l'estime de soi. On doit rechercher l'estime de soi. C'est fondamental d'avoir de l'estime de soi. Tout ce qui, quand on éduque nos enfants, il faut surtout préserver leur estime d'eux-mêmes. Il y a un discours assez curieux là autour. Alors, c'est pas faux qu'on a besoin d'estime de soi, mais mettre ça dans une valeur absolue, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans, mais mettre ça, c'est un mensonge, mais qu'on a tendance à croire, parce que ce n'est pas tout à fait faux. Mais la priorité là-dessus est fausse, ou bien aussi une chose qui est pour nous importante, on a besoin de croire en nous-mêmes. Ah, ça, c'est important, croire en soi-même. Pour aller de l'avant, il faut croire en soi-même. Franchement, c'est un mensonge. La Bible, en tout cas, ne parle jamais de croyez en vous-même. Elle nous tourne vers Dieu, pas vers nous-mêmes. Mais finalement, c'est quand même quelque chose qu'on accepte. Ou bien un autre discours qu'on entend, il faut accomplir ses rêves. Mais nos rêves, ce n'est pas les rêves de Dieu. Franchement, on peut rêver des tas de choses, alors Dieu peut nous mettre des choses, mais les choses que Dieu nous met à cœur, les rêves de Dieu, ils ne rencontrent pas en notre cœur un écho très favorable. On est vraiment biaisé. Et puis il y a un ennemi qui nous fait que les plans de Dieu nous font peur. Et accomplir ses rêves, à mon avis, c'est le plus sûr moyen de passer à côté de la pensée de Dieu. Que j'ai mis aussi un autre discours, il faut absolument vivre ses passions. Voilà, ça c'est une chose qu'on entend tout le temps. Il faut vivre vos passions. Mes amis, nos passions, elles sont mauvaises. Même notre passion de servir Dieu, si c'est une passion, c'est mauvais. C'est pas de la dépendance, c'est pas de recevoir de lui, c'est de nouveau moi, moi, moi. Ou bien le dernier que j'ai noté, c'est très important de prendre soin de soi-même. La Bible elle nous dit, vous renoncez à vous-même. C'est vraiment l'opposé. Alors, pas dire qu'il faut pas prendre soin de soi, mais quand on met ça comme des vérités centrales, on est dans le mensonge. C'est des pièges de Satan. Il n'y a pas que les théories du genre ou les trucs farfelus qui sont autour de nous qui sont des œuvres de Satan. Ces choses-là qui nous atteignent sont des œuvres de Satan. Alors, comment y résister ? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Toutes ces illusions, Yann en a parlé la semaine passée, c'est un combat de pensée. Comment je pense, comment je réfléchis, comment je vois les choses. C'est un combat de pensée. Et il y a un symbole de la vérité. La vérité, ça veut dire oser regarder les choses en face déjà. Refuser le mensonge, c'est oser confronter ma réalité, ne pas me cacher les choses, ne pas me cacher, je parlais de la Bible, de la vie, de nous-mêmes, être dans la vérité, gardons les choses bien, sachons reconnaître qu'on ne sait pas, par exemple. Ça, c'est la vérité. Et puis, la parole de Dieu. face, le seul moyen, la seule arme solide pour résister à toutes ces choses qui nous touchent, finalement, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Ça veut dire qu'elle est sérieuse, et ça veut dire que si je ne la médite pas, c'est pas la lire superficielle, si je n'y réfléchis pas, si je ne l'interroge pas, si je ne la considère pas comme une source d'informations, de pensées, d'indications qui sont vraiment de Dieu, ben je serais mais vaincu par ces mensonges de manière automatique. C'est l'outil que Dieu donne pour que tous les mensonges du diable puissent être, le brouillard puisse être ôté pour qu'on voit la réalité des choses. On peut des fois se dire, mais c'est un combat compliqué. Ben, il commence par une chose. Ben, c'est considérer la parole. Pas simplement l'écouter. Mais ben, vous écoutez maintenant la Bible, puis ce que j'espérais être quand même une parole de Dieu. Moi, une chose qui m'a vraiment frappé encore hier, c'était ce verset où, quand il est parlé des différents terrains, il dit, la parole tombe dans un terrain, je ne sais plus lequel c'est, il germe, il y a de la joie, mais un ennemi vient et ôte la parole. C'est un combat. Satan est présent. Vous lisez la Bible, mais il va essayer d'effacer. C'est pour ça que c'est un investissement. Ça nécessite, oui, de prendre ça au sérieux. C'est un combat. Si Satan est là, qui essaye d'effacer ce qui a été semé, eh ben, on est appelé à quoi? À résister. Et l'épée de l'esprit. La Bible sans l'esprit, les gens peuvent la lire. Rien. Mais l'esprit, si on est né de nouveau, si on a la vie de Dieu, eh bien, c'est possible. Ça devient l'outil de Dieu pour ouvrir nos yeux. Si vous avez le sentiment que vous ne lisez pas assez la Bible, ben, c'est un sentiment juste. Si vous avez le sentiment que vous lisez la Bible superficiellement, c'est aussi un sentiment juste. Soyez attentifs. Alors, on va avoir des tas d'excuses, voyez. Légalisme, chose. On en a vraiment besoin. Et la victoire est possible. J'aimerais terminer par ça. Je trouve assez négatif tout ce que j'ai dit, mais la victoire est possible. Je peux connaître Dieu. Je peux accéder à Dieu. Je peux avoir la paix de Dieu. C'est des réalités. On les a tous, je pense, ici, expérimentées. Elles sont un peu évanescentes, il y a ce combat. Mais la victoire est possible. Franchement, si on est sauvé, le passage de Romains qu'on a lu tout à l'heure le montre, si on est sauvé, ben, Dieu est pour nous. Il est là, il n'y a pas de problème. Dieu combat pour nous. Ça nous épargne pas un combat, mais la victoire est certaine. Viendra le temps où tout ceci sera derrière et on verra tout ce que Dieu a fait. Et on verra les victoires qu'on aura remportées, qui sont peut-être très discrètes parfois, mais qui sont des vraies victoires qui honorent Dieu. Seigneur, j'aimerais te prier que tout ceci nous encourage. Seigneur, on a un ennemi puissant, mais il est vaincu déjà à la croix, mais aussi, tout est fait pour que on puisse résister et tenir debout. On va rappeler maintenant ce que tu as fait à la croix. Ben, Seigneur, merci. Merci parce que c'est ça qui rend tout possible. Sans nous, seuls, rien. Mais toi, tu as tout fait. Merci beaucoup. Amen.